Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des Jeux du Mois. Et comme d'habitude, je suis accompagné par Beno FX. Bonjour Beno FX.
Salut Cyrus, bonjour à toutes et à tous.
Alors, j'espère que tout va bien se passer parce qu'on avait, on a fait un premier essai et j'ai eu le droit à une super mise à jour Windows qui a duré des heures, donc on a dû reporter l'enregistrement.
Ouais, et puis là, j'ai mon voisin qui donne des coups de perceuse de temps en temps, donc si jamais il y a des bruits bizarres, vous étonnez pas.
C'est normal, tout va bien. En espérant que ce soit pas un fou qui débarque dans ton appart.
Non, ça va. Non, mais ça a l'air, ça a l'air de s'être calmé là.
Bon, très bien. Alors, de quoi allons-nous vous parler aujourd'hui? De quoi tu vas nous parler, toi, Benofix?
Alors, moi, je vais vous parler de Unshu, un petit jeu de cartes, cartes slash tuiles, voilà, que j'ai bien aimé, auquel j'ai pas mal joué ces derniers temps, et que je voulais vous présenter.
Ok, bah on va pouvoir discuter de ça. Moi, j'y ai déjà joué et j'ai aussi un avis dessus.
Parfait.
On va pouvoir en débattre. De mon côté, je vais vous parler de Topiary, qui est un jeu qui n'est pas édité en français. Donc voilà, on en parlera de façon plus approfondie plus tard. Et du coup, je propose qu'on commence par Unshu.
Avec plaisir. Alors Unshu, c'est un jeu de Cal Malmyoja. Alors c'est encore un nom difficile à prononcer. C'est, je pense, un auteur finlandais puisque c'est édité par Lotapelit, l'éditeur finlandais à qui on doit Flamme Rouge. C'est illustré par Jer Kansanen et aussi Yebkala. Enfin encore, on mettra les noms, hein, vous prononcerez comme vous voudrez. Donc qu'est-ce que c'est Unshu? Donc comme je l'ai dit, c'est édité par Lotapelit, c'est distribué du coup en France et dans les pays francophones, je pense, par BlackRock. Et c'est un jeu de, on va dire, de pose de tuiles dans lequel va falloir faire un territoire.
Sans tuiles,
en fait, c'est avec des cartes. Mais je vais faire le rapprochement un peu après avec King Domino et surtout Queen Domino. Mais c'est un jeu, voilà, de pose de tuiles qui sont des cartes, mais de pose de cartes pour créer un territoire avec différents types de territoires, etc., et des règles de marquage de points en fonction des territoires qu'on fait à la fin. Et là où je trouve ça assez original, c'est que c'est à la fois un jeu de cartes et de plis, puisque la pose de tuiles, la phase en fait de choix des tuiles qu'on va poser, va se jouer par une phase de plis en fait, où il faudra poser la carte la plus forte pour devenir premier joueur et choisir la carte parmi toutes celles qui ont été jouées en premier. Donc pour vous faire le tour de jeu un peu simplement, c'est que au début du jeu, on reçoit chacun, si ma mémoire est bonne, on reçoit 6 cartes. Et parmi ces 6 cartes, on va jouer une carte. À chaque tour, on va jouer une carte. Première phase, on joue une carte. Les cartes sont numérotées de 1 à 60. Et celui qui aura posé la carte à la plus forte valeur va pouvoir choisir une des cartes qui a été posée par tous les joueurs sur la table pour la mettre dans son territoire, justement.
Alors, on les joue face cachée, je crois, c'est ça, hein?
Non, on les joue pas face cachée. Justement, l'ordre du tour...
Il y a un premier joueur.
Oui, il y a un premier joueur. Un premier joueur qui change à chaque fois, puisque si je suis premier joueur, c'est moi qui vais jouer la carte en premier. Mais du coup, si je joue ma carte en premier, par exemple, je joue un 35, ça va donner l'information aux autres joueurs, et donc ils vont pouvoir facilement, comme un jeu de plis, en fait, on joue chacun son tour à jeu découvert, ils vont pouvoir monter au-dessus. Mmh. C'est vraiment le principe d'un jeu de plis. Et seulement la personne qui va mettre la valeur la plus forte va devenir premier joueur. En fait, il y a des cartes qui donnent l'ordre du tour. Donc la personne qui aura joué la carte la plus forte va devenir premier joueur. Et donc, sur la deuxième phase d'un tour, il va pouvoir choisir sa carte parmi toutes celles qui ont été jouées pour la placer dans son territoire. Donc là, il y a une espèce d'équilibre aussi où les cartes avec des valeurs relativement faibles sont souvent des cartes un peu plus intéressantes à prendre que des cartes de valeur forte. Par contre, il va devenir premier joueur, donc il va avoir plus sur ce tour-là, il va avoir plus de choix dans les cartes qu'il va pouvoir prendre, puisqu'il aura le choix entre toutes les cartes que tous les autres joueurs ont posées. Par contre, au prochain tour, il va être premier, donc c'est lui qui va lancer la phase de pli, et du coup, les autres joueurs vont pouvoir peut-être plus facilement lui monter dessus aussi au niveau des valeurs pour pouvoir choisir leurs cartes.
J'avais pas eu cette impression que les cartes plus faibles étaient plus intéressantes, en fait.
En fait, ça dépend pas mal, mais il y a des éléments sur les cartes faibles, il y a des éléments qui scorent un peu plus. Par exemple, tout ce qui est lac, les lacs vont plutôt être sur les cartes inférieures à 30, sur les cartes plutôt faibles. Et les lacs, bon, je vais expliquer après comment on score, mais les lacs, c'est des éléments qui peuvent scorer beaucoup si on les joue bien. Idem, souvent, les productions de matières premières vont plutôt être sur les cartes, je vais expliquer aussi ce que c'est, mais vont plutôt être sur des cartes faibles en valeur plutôt que sur les cartes fortes. Alors il y a des cartes fortes qui sont très bien, ou sur lesquelles il y a des éléments qui peuvent vraiment nous intéresser aussi, hein. Mais c'est surtout vrai pour les lacs, en fait. Pour le reste, c'est assez réparti. Sur les cartes fortes, on va souvent avoir des déserts aussi, et les déserts n'apportent pas de points, en fait. Quoique, je suis en train de regarder un petit peu, c'est assez réparti, en fait. Mais je vais expliquer après, il y a une autre mécanique aussi avec laquelle on va pouvoir passer au-dessus d'une carte forte, même avec une carte plus faible. Donc globalement, ce que je disais, c'est que on a une phase de pli. Celui qui met la carte la plus forte va pouvoir choisir parmi toutes les cartes qui ont été jouées. Voilà, et après dans l'ordre en fait de la valeur des cartes, donc le deuxième plus fort va pouvoir choisir en deuxième, et ainsi de suite, et donc le dernier n'aura pas le choix, il va devoir prendre la carte restante. Donc chacun va placer ses cartes dans son territoire. Je vais décrire un peu les cartes après. Et au tour suivant, celui qui était premier, celui qui avait mis la carte la plus forte, va refaire une phase de pli, etc. Donc on va jouer 3 tours comme ça. Au bout de 3 tours, on va faire une sorte de draft, c'est-à-dire que les cartes qui nous restent en main, on va les passer à notre voisin de gauche. Donc c'est aussi important, parmi les 6 cartes avec lesquelles on va jouer, il faut bien choisir les cartes qu'on va jouer dès le début et les cartes qu'on va passer à son voisin. Donc ça peut être important. Soit je vais jouer toutes mes cartes fortes dès le départ, mais du coup, je vais filer mes cartes faibles.
Sans garantie de les récupérer aussi.
Ah, on les récupère pas, hein. C'est vraiment, on va jouer 3 cartes de notre jeu.
Non mais je veux dire, sans garantie que tes 3 cartes qui sont potentiellement fortes, tu vas pouvoir les mettre dans ton terrain, c'est ça que je veux dire.
Oui, alors ça dépend, si tu récupères la main, tu vas avoir le choix de la prendre ou pas, ta carte. Si tu mets une carte faible, t'as assez peu de chances de pouvoir la choisir si tu la voulais. Donc voilà, il y a cet équilibre là qui se crée. Et donc, on va faire 6 tours comme ça, donc 3 tours avec les cartes qu'on a en main. Les 3 cartes restantes, on va les filer à notre voisin de gauche. Donc ça fait 6 tours, et on va recommencer le processus, c'est-à-dire on va faire 2 fois ça, on va refaire 6 tours après, avec une nouvelle distribution de cartes, 3 tours avec les cartes qu'on a en main, 3 tours avec les cartes que notre voisin nous aura passées. Donc, ces cartes, comme je l'ai dit, elles sont numérotées de 1 à 60, et en fait, sur les cartes, il y a 6 cases, il y a un gaufrier, en fait, avec 6 cases, qui représente différents... c'est comme ça qu'on dit en BD, généralement, quand t'as un truc très...
Ouais,
en 2x3. Donc, il y a 6 cases sur chaque carte, avec différents territoires. Donc, les différents territoires, je vais vous les citer pour savoir un petit peu, et je vais vous donner comment elles scorent, comment chaque territoire score, sachant que ce scoring peut être modulé, en fait, quand on a joué beaucoup de parties, il y a des cartes de score alternatifs qui permettent de scorer ces territoires différemment, pour un peu renouveler la partie. Mais autrement, il y a 6 types de territoires, c'est assez simple. Il y a les forêts. Donc les forêts, à la fin de la partie, chaque carte de forêt visible rapporte 2 points de victoire. Il y a les villages. À la fin de la partie, chaque case de village rapporte 1 point, mais on ne compte que le plus grand village de chaque joueur. C'est-à-dire que on va devoir faire un territoire continu, par exemple, de village. D'accord. Et donc le village qui sera case village adjacent, et donc la ville qui comptera le plus grand nombre de cases village de chaque joueur va compter pour 1 point par case village de cette ville. Ensuite, c'est là où ça devient un peu intéressant, on a des cases de production, de ressources. Donc il y a différentes ressources, il y en a 4 ou 5 je crois, 4 il me semble, il y a du bois,
moi je crois que c'est 4,
il y a de la pêche, il y a de l'or et il y a de la pierre je crois. Donc il y a des cases de production qui vont produire une ressource, donc en fait vous allez produire un petit cube de la couleur de la ressource en question. Donc ces cases ne rapportent rien du tout en tant que telle à la fin de la partie, si ce n'est la ressource que vous allez pouvoir utiliser de différentes manières. La première manière, ça va être de l'utiliser en fin de partie sur une case manufacture. Donc ça, c'est d'autres cases qui sont présentes sur les cartes. Et les cases manufacture, c'est des cases qui rapportent de 2 à 4 points de victoire. C'est écrit sur la case, en fait, le nombre de points de victoire. Si, dans cette manufacture, vous vendez en fait la ressource correspondante.
En fait, c'est une matière première que tu mets dans ta manufacture qui te permet de faire, thématiquement, un produit manufacturé. Quoi.
C'est ça. Tu fais le produit manufacturé qui te rapporte des points de victoire. Donc ça, c'est la première manière d'utiliser ces ressources. Je reviendrai sur la deuxième manière après. Donc ça, c'est une autre manière de faire des points. C'est dans les manufactures. En transformant les matières premières des cases de production dans les manufactures, ça nous fait entre 2 et 4 points en fonction de la manufacture. Ensuite, on a les cases LAC dont je vous parlais. Donc les cases LAC, en fait, déjà, ils doivent toujours rester visibles. Je vais expliquer après comment on place les cartes. Mais les cases LAC ne peuvent jamais être recouverts par une autre carte. Donc les cases LAC rapportent 3 points chacun si le groupe de LAC fait au moins 2 cases et la première case en fait ne rapporte jamais rien. C'est-à-dire qu'un LAC tout seul ne rapportera 0. À partir du moment où vous avez 2 LAC, ça vaut 3. 3 LAC, ça vaut 6. 4 LAC, ça vaut 9. Voilà.
C'est tout. Non, c'est pas ton plus gros LAC là. C'est,
non, c'est là tous c'est tout tes LAC. Tout tes LAC indépendamment rapporte.
Le nombre de cases x 3 moins 3.
Ouais, c'est ça. Le nombre de cases moins 1 x 3.
Oui, ça marche aussi.
Voilà. Et ensuite, il y a les cases champs qui, elles, ne rapportent rien. Si ce n'est, ça sert de tiebreaker à la fin. C'est-à-dire celui qui a le plus de cases champs, s'il y a une égalité de score, celui qui a le plus de cases champs remporte la victoire. Alors, comment on va poser ces cartes, en fait, dans le territoire? C'est là où ça peut être sympa aussi. On va poser la carte sur la table. Donc, c'est une carte où il y a 6 cases entières. Et quand on va rajouter une carte, on peut superposer cette carte à une autre. À la manière d'un domino, enfin pas tout à fait à la manière d'un domino parce qu'on va pas placer les cartes à côté, on va les superposer. Donc quand je place une carte, il faut toujours qu'il y ait au moins une case qui soit au-dessus ou en dessous d'une carte déjà posée. Là c'est assez intéressant parce qu'on peut la poser au-dessus ou en dessous, d'accord ? Et bien sûr,
je m'en rappelais plus ça. Mais
ouais. Ouais. Oui, okay. Non, tu peux la glisser en dessous, la poser au-dessus. Donc quand je pose une carte, il faut au moins qu'il y ait toujours une case qui se superpose à une des autres cartes. Bien sûr, la carte, je suis pas obligé de la laisser à la verticale. Hein, je peux la mettre dans le sens que je veux, verticale ou horizontale. Et je dois au moins recouvrir une case ou plus d'une autre carte. Je ne peux pas recouvrir une autre carte complètement, même si... En fait, toutes les cartes doivent au moins encore présenter une case visible à la fin de la partie. C'est-à-dire que même si j'ai en trois cartes, par exemple avec trois cartes, j'arrive à en recouvrir une complètement, je n'ai pas le droit. Il faut toujours qu'il y ait au moins une case...
Ah, j'allais dire, je me rappelais pas de toutes ces subtilités, mais en fait, moi j'avais joué avec la version Lotapelite, avec les règles de Lotapelite, et je pense que
oui, étaient vraiment très bien écrites. Je vais en reparler. Ouais, il y a eu, c'est un peu comme Flamme Rouge en fait. Il y a eu deux éditions. Il y a une première édition Lotapelite avec des règles Google Trad comme on les a connues Flamme Rouge.
Ouais, c'était même pire.
Moi, la version que j'ai achetée, c'est la deuxième version où il y a un vrai travail, je pense, de règles françaises qui a dû être fait par BlackRock, je suppose.
Par BlackRock. Hein.
Et là, moi, il y a vraiment aucun problème de règles et voilà, il y a toutes ces petites subtilités qui sont bien expliquées dans la règle. Donc oui, une carte peut pas être recouverte entièrement par plusieurs cartes. Il faut toujours qu'il y ait au moins une case de cette carte qui soit visible. Ça, c'est les règles de pose qui sont pas si contraignantes que ça. Mais après, si on veut vraiment scorer, notamment sur les villes ou les lacs, là, ça devient un petit peu subtil, le jeu de comment je pose les cartes pour pouvoir faire des lacs en continu ou des villes en continu. Donc ça, c'est les règles de pose, c'est assez sympa. Donc visuellement, c'est assez joli aussi. Enfin, les cartes, je trouve, c'est très simple. Hein. C'est de la vue dessus. Ça fait un peu... je sais pas si vous avez joué à du SimCity 2D à l'époque sur Super Nintendo ou sur les premiers PC. C'est des cartes vues du dessus. Voilà, on a des bâtiments, on a le désert. Enfin, c'est très simple, mais c'est assez efficace. Et le résultat, au final, est pas mal parce qu'on pose quand même 12 cartes. Donc, ça fait un beau territoire à la fin. Donc je vous disais que les cubes, les productions peuvent être utilisées de plusieurs manières différentes. Donc la première manière, la plus fréquente, enfin quoique, c'est de l'utiliser dans une manufacture à la fin de la partie pour ramasser des points. Mais en fait, ces cubes vont pouvoir aussi être utilisés lors de la phase de pli. C'est-à-dire que quand je vais mettre une carte, par exemple une carte de valeur assez basse, une carte 5 imaginons, je vais pouvoir jouer un cube de mes ressources, qui va être du coup perdu, mais pour augmenter la valeur de ma carte de 60. Donc, comme les cartes sont numérotées de 1 à 60, si je joue la carte 5 avec une ressource, ma carte vaudra donc 65. Je défausse une ressource pour augmenter la valeur de ma carte de 60.
Ouais, ce que peut faire aussi un autre joueur, du coup.
Alors, l'autre joueur peut le faire, mais par
contre, derrière toi.
Si j'ai engagé une ressource grise, Si l'autre joueur veut augmenter sa carte de 60, une fois qu'un type de ressource a été engagé, il est obligé d'engager le même type de ressource. Et comme je vois sur la table qui a quoi comme ressource, et si par exemple je suis le seul à avoir de la ressource bleue, je peux très bien dire j'augmente ma carte de 60 avec une ressource bleue, ce qui va m'assurer en fait de choisir ma carte en premier lors de, du choix des cartes à poser. Donc ça aussi c'est une petite subtilité, comme le jeu est ouvert, qu'on voit ce que les autres jouent et ce que les autres ont comme ressources, on peut facilement essayer de jouer là-dessus pour éviter à ce que les gens montent au-dessus au niveau des enchères. Ça permet d'avoir plus de contrôle. Voilà, ça c'est vraiment, j'ai expliqué le jeu, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a cette phase de pli, cette phase de pause, et après on compte les scores à la fin. Il y a un petit bloc de score pour scorer les différents types de cases, et on fait le décompte, et ça marche plutôt très bien.
Avec comme deux distributions du coup.
Ouais, il y a deux. Alors, il y a en fait c'est un jeu. J'ai oublié de préciser, mais c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs avec une variante pour 2 joueurs en fait. Comme il y a cette notion de draft et de choix parmi les jeux des autres, à deux, il y a une petite variante où à chaque fois, en fait, chaque joueur va choisir une carte de sa main, ce qui va faire en fait un tas de 2 cartes, et on va piocher 2 cartes de la pioche directement, ce qui va faire un tas de 2 cartes. Et en fait, le joueur qui aura posé la carte de la plus forte valeur va pouvoir choisir un des 2 tas de 2 cartes.
Ouais, je m'en rappelle plus. Okay.
Ouais, attends, je jette un œil à la règle, mais j'ai joué qu'une fois à 2 joueurs. Les 2 premières cartes de la pioche sont révélées. Puis, donc ça prend une paire de cartes. Et les deux joueurs choisissent chacun une carte de leur main et la révèlent simultanément. Donc c'est à 2 qu'on va révéler simultanément, qu'il n'y a pas cette phase d'enchère. Et ces 2 cartes forment une seconde paire. Le joueur qui a joué la carte la plus forte, comme dans le jeu normal, décide s'il prend la première paire constituée des 2 cartes de la pioche ou la paire constituée des 2 cartes jouées par les joueurs. Et ensuite, dans cette paire, chacun va défausser une carte et en jouer une. C'est-à-dire qu'on joue quand même qu'une carte par tour, il y a quand même 12 tours, mais le choix se fait entre 2 paires et dans cette paire, on va choisir une carte en défausser une. Donc ça, c'est une petite variante à 2. Ça tourne pas trop mal le jeu à 2, mais je pense qu'il est quand même conçu au départ pour... Enfin, la phase de pli est quand même beaucoup plus intéressante à partir de 3 joueurs et à 4-5 encore plus, puisque le fait de jouer une carte forte nous donne vraiment beaucoup de choix dans les cartes qui ont été jouées. Mais ça se joue bien à 2, la phase pli est moins présente, ça reste un jeu de pose de tuiles entre guillemets et qui est plutôt sympathique. Donc comme je vous l'ai dit aussi, il y a des règles optionnelles. Quand on en a marre de scorer les forêts 2 points, les villages 1 point, voilà, il y a des scoring optionnels, donc il y a des cartes score alternatifs, donc on peut en tirer un ou plusieurs au début de la partie. Et voilà, ça, c'est des par exemple, chaque ligne ou colonne de 3 cases de forêt donne un bonus de 4, chaque carré de 2 par 2 de champ rapporte 5, chaque case lac rapporte 2, même s'ils sont isolés, chaque case de village adjacente à exactement 4 autres cases de village rapporte 3. Enfin voilà, c'est juste des petites règles optionnelles, additionnelles, qui permettent de varier un petit peu les scorings et les objectifs de score.
Et du coup, c'est un jeu. Alors, enfin, moi, je l'avais essayé l'année dernière je l'avais pas essayé à Essen l'année dernière. Je l'ai acheté en blind à Essen l'année dernière. J'ai joué en rentrant. Donc, effectivement, les règles n'étaient pas terribles, terribles. Mais bon, en dehors de ça, on avait quand même réussi à jouer. Et, direct, on fait tout de suite le parallèle et la comparaison avec King Domino, qui était sorti à la même époque.
Oui.
À Essen l'année dernière. Et c'est vraiment il y a beaucoup de parallèles à faire parce que c'est un côté domino, pose de territoire, on compte des points par rapport à un territoire posé. Il y a un système de récupération de la tuile qui lui est différent pour le coup.
Oui, tout à fait.
Mais moi j'avais vraiment trouvé Honshu qui accusait vraiment la comparaison quoi, qui est vraiment beaucoup plus lourd que King Domino, aussi bien à la phase de la phase de récupération de la tuile qui est une phase de pli du coup qui... Enfin moi j'avais vraiment trouvé ça super lourd entre je vais jouer une carte forte pour essayer d'être premier mais du coup tu sais pas forcément les cartes qui vont tomber derrière donc la plupart du temps on se retrouvait à récupérer notre carte du coup c'était pas forcément super pertinent quand on joue une ressource, la plupart du temps, alors effectivement, tu peux réussir, tu vois les ressources des autres, mais bon, t'es contraint aussi par rapport aux ressources que t'as, quoi. Donc, tu te retrouvais quand même souvent à te faire contrer par le mec qui voulait garder sa carte et du coup, qui jouait une ressource de la même couleur que toi. Enfin, je me retrouvais, enfin, j'avais vraiment trouvé ça beaucoup trop lourd, quoi. Et le coup du, alors, tu appelles ça un draft, mais c'est en gros t'as joué trois cartes et tu passes les trois dernières au jour d'après.
Oui, enfin, c'est ça.
C'est pas vraiment du draft.
Non, c'est pas du draft.
Pas comment on peut appeler ça, c'est de toute façon. Donc effectivement, enfin, je vois pas comment on peut appeler ça. Donc admettons. J'en voyais pas trop l'utilité non plus. En fait, si tu veux, vraiment un gros manque de maîtrise dans le jeu. T'as l'impression que sur le papier, t'as l'impression de maîtriser des choses, et puis en fait, dans les faits, on avait vraiment l'impression de rien maîtriser. Et en plus, si tu voulais, comme tu veux, essayer de maîtriser des choses, parce qu'il y a beaucoup de paramètres dans le jeu, bah tu passes beaucoup de temps à réfléchir, à te dire, je vais poser telle carte, alors est-ce que je vais vraiment pouvoir la garder, ou est-ce que je joue plus petit, et puis tant pis, j'aurai une carte, j'aurai pas le choix, tu vois. Enfin bref, tu te poses pas mal de questions, et au final, t'es... Enfin, moi j'avais vraiment l'impression de subir tout le temps, quoi. Du coup, j'ai vite reparti à la vente chez moi. J'avais fait 3-4 parties, je sais plus, 3 ou 4 parties. J'avais essayé à deux, je crois. Je sais plus si j'avais essayé à deux ou pas. Mais j'ai essayé avec 2-3 groupes de joueurs et ça a fait assez flop à chaque fois. Et du coup, j'ai laissé tomber, quoi.
Ouais, alors moi j'ai vraiment pas cette sensation de...
Ah, j'imagine, ouais.
J'ai vraiment pas cette sensation de lourdeur, en fait. Je le trouve assez fluide. J'ai l'impression quand même que, en fait, la gestion des ressources est importante. Effectivement, t'es contraint de ressources que t'as, mais les ressources, tu les as aussi en choisissant ta carte. Donc c'est important de jouer des cartes des fois hautes pour avoir le choix des cartes qui ont été mises pour pouvoir justement récupérer des ressources et garder le contrôle.
Du coup ça marche en fait, si tu veux, tu ne vois les cartes que si t'es dans les derniers à jouer, finalement. Si t'es premier ou deuxième, admettons que tu joues à 4, t'es premier ou deuxième, bah le premier déjà il voit aucune carte, donc il part complètement à l'aveugle. Le deuxième il voit une carte, il sait lui potentiellement laquelle il va jouer, mais derrière il sait pas à 3-4, enfin le joueur 3 et le joueur 4 ce qu'ils vont jouer. Donc s'il lui met une grosse carte, ça se trouve il va récupérer de la dope si sa propre carte ne l'intéresse pas, tu vois. Ça c'est,
bah non, puisque généralement si tu joues une grosse carte et que tu es premier, tu vas avoir du choix. Donc généralement sur 4 cartes jouées, les cartes sont relativement équilibrées, t'as pas des cartes ultra pourries et des cartes ultra fortes. T'as des cartes qui sont un peu meilleures que d'autres, notamment t'as des cartes qui produisent des ressources et d'autres pas. Mais globalement, sur quand il y a 4 ou 5 cartes qui vont être jouées, être premier et choisir la carte, même si tu vois pas ce que les autres vont jouer. Alors, il faut pas confondre deux choses. Tu peux être premier joueur à mettre une carte, d'accord, et tu peux être aussi premier à choisir une carte après, donc en fonction de la carte que
d'accord.
T'as jouée. Moi je trouve que justement l'intérêt il est là, c'est que soit t'es premier joueur parce que justement t'as été premier avant, enfin, ou t'as mis ta plus grosse carte avant et du coup t'as eu le choix. Donc justement pour contrebalancer, là tu vas être le premier à jouer, donc tu sais pas si on va passer au-dessus de toi et tu sais pas ce qu'on va mettre comme carte. Mais tu peux aussi jouer, justement, comme t'as été premier la fois d'avant, tu peux très bien avoir pris, justement, récupérer une carte avec une ressource, dans le but de jouer cette ressource pour garder le contrôle. Ou à l'inverse, t'as été dernier au tour d'avant, donc t'as pas eu le choix sur la carte que t'as pris ce qui restait. Mais comme tu vas du coup jouer ta carte en dernier, tu as vraiment la maîtrise de ce qui a été joué par les autres. Donc tu vas pouvoir te placer pour savoir si tu vas être premier, deuxième, troisième à jouer. Et du coup, tu vas avoir le contrôle sur ce que tu choisis de prendre. Enfin, moi, j'ai vraiment... pour le coup, je trouve ça... si on fait le comparatif à King Domino, c'est un petit peu plus évolué que King Domino. C'est moins immédiat comme vision du choix que d'être premier, deuxième ou troisième, choisir ta tuile et tes nouveaux deuxièmes... premier, deuxième ou troisième. T'as cette notion de valeur de carte et de ressources à jouer qui est importante, mais une fois que t'as saisi ça, je trouve que le choix il est assez assez clair, et stratégiquement tu sais à peu près ce que tu dois faire. Alors effectivement, des fois tu vas être déçu parce que t'as joué une grosse carte en premier pour garder la main et tu tombes pas pile sur ce que tu veux, Mais généralement, moi, j'ai fait des parties à 4 ou à 5. Quand il y a 4 cartes qui sont jouées, tu t'arrives à te raccrocher aux branches parce que tu vas toujours récupérer soit de la manufacture qui correspond à une ressource que tu avais produit, soit un truc à produire, soit un lac. Enfin, tu peux trouver ton bonheur dans les cartes. Être premier, même si tu n'as pas la vision de ce qui va te jouer, si tu arrives à garder le contrôle, tu as quand même un choix. Les cartes sont quand même... Il n'y a pas de cartes. Il n'y a pas de la double... C'est pas comme dans King Domino, il ne va pas y avoir de la double... De la double case qui sert à rien. Tu vois, dans King Domino, si t'as pas du tout fait, je sais pas, le blé, et qu'effectivement t'es dernier à choisir et qu'il y a un double blé et que t'en feras rien, là c'est pas le cas. Dans Honshu, même si tu veux, quand tu prends la carte par défaut, t'arrives à trouver un ou deux éléments qui vont te servir.
Non, mais tout va mettre des points dans Honshu. Enfin, à part
les champs.
Effectivement, les
mais
champs,
t'as toujours autre chose que des champs sur les cartes. C'est juste qu'après, voilà, il y a des cartes où il y a plus de choses. Après, ça dépend de ta stratégie aussi. Si t'es parti vraiment sur une stratégie gros village ou sur une stratégie lac, tu vas pas forcément viser les mêmes cartes et t'auras pas forcément les mêmes intérêts à être premier ou dernier. Enfin voilà. Les lacs, par exemple, qui sont assez rares, forcément, tu vas faire une stratégie où tu vas éviter d'être dernier puisque généralement les gens vont pas les laisser. Si tu pars sur une stratégie plutôt village, là en fait tu peux jouer un peu plus au milieu, en milieu de tableau, parce que tu sais que les villages en a un peu partout, et après tu vas juste prendre la carte de village qui est un peu mieux orientée, ou là où il y a peut-être une case de plus. Il y a des cases où il y a un, deux villages, il y en a où ils sont côte à côte, d'autres non, il y en a où il y en a trois, enfin... Les cartes sont assez variées pour adapter ta stratégie en fonction des tours de jeu. Moi j'ai pas senti du tout cette sensation de subir le jeu, non, j'ai plutôt... Alors effectivement, mais c'est comme...
Mon sentiment premier, c'est vraiment la lourdeur, en fait. Hein. Surtout quand tu comparais avec King Domino, enfin là, je pense que c'est clair, faut quand même dire, c'est pas du tout la même... c'est pas aussi direct que King Domino.
Non, c'est un peu moins direct, mais c'est là aussi où est l'intérêt du jeu, je trouve, c'est que justement, il y a une petite couche supplémentaire. J'adore King Domino, hein, c'est un de mes jeux favoris. Mais c'est aussi là où t'as une petite couche supplémentaire. Et moi justement, je voulais faire le comparatif de Honshu par rapport à Queen Domino que j'ai essayé récemment. Là où j'adore King Domino, j'ai trouvé que Queen Domino justement dénaturait un peu King Domino, dans le sens où ça rajoutait une couche un peu lourde à un jeu qui était très pur. Honshu, on est sur une mécanique un peu différente sur cette phase de pli, et je trouve justement que des gens qui voudraient aller un peu retrouver quelques sensations de King Domino, mais aller sur un truc un petit peu plus je vais pas dire subtil, le but c'est pas de
un peu plus joueur,
un petit peu plus profond, on va dire, dans la stratégie pour le choix de la tuile. Je les dirigerai plutôt vers Honshu que vers Queen Domino, justement, qui pour le coup reprend la mécanique exacte de King Domino, mais avec des éléments qui l'alourdissent vraiment, je trouve. Dans le choix, en fait, ça prend plus de temps, puisqu'il faut choisir si on achète des choses à chaque tour. Enfin, ça, pour le coup, je trouve que ça alourdit un peu King Domino, qui était vraiment simple et efficace. Honshu, on est sur quelque chose de légèrement différent, en fait. C'est là aussi où je trouve ça. Je les compare, mais c'est pas si comparable que ça, puisque les tuiles sont pas que de deux cases, il y a toutes les tuiles sont vraiment très intéressantes. Là où King Domino, on peut se retrouver vraiment avec une tuile qui nous sert pas. Honshu, effectivement, il y a un peu moins de frustration des fois.
Ça revient quand même un peu au même. C'est-à-dire que c'est sûr que tu vas pas te retrouver avec une carte qui sert à rien dans Honshu, mais elle va te mettre potentiellement tellement peu de points que c'est comme si elle servait à rien. Là, je veux dire, après, c'est juste une question de référentiel, quoi.
Oui, mais, je suis d'accord, mais entre
une carte qui te met, je prends un exemple n'importe lequel, qui est censé, entre guillemets, te mettre en moyenne 5 points, et une carte qui, du coup, va te donner 2 points, voilà, quoi. C'est comme si tu disais une tuile à King Domino qui te rapporte rien, et qui, pour le coup, te rapporte 10 points, tu vois, c'est une question de référentiel, juste.
Oui, mais je pense que la différence en fait entre une carte qui te rapporte, enfin une tuile qui te rapporte beaucoup et une tuile qui te rapporte rien, je pense qu'il peut y avoir plus d'écart de points dans King Domino que dans Honshu. Je pense que Honshu, le référentiel est un petit peu plus resserré. Et du coup, t'as un petit peu moins de frustration, je trouve, dans Honshu, à te retrouver dernier à choisir, à pas avoir le choix de ta carte, puisque sur chaque carte, tu vas quand même réussir à trouver des éléments et tu vas quand même pouvoir réussir à t'en sortir. Et voilà, l'équilibre est aussi dans le fait que être dernier à Honshu, ça te donne un moins grand pouvoir peut-être qu'à King Domino, où tu vas être premier à choisir ta tuile. Là, un shoot, t'es pas sûr d'être premier de choisir ta tuile, mais t'es sûr en tout cas de savoir combien tième tu vas être en fonction de la carte que tu vas jouer. Donc je pense que c'est à peu près le même, l'équilibre est un peu, est à peu près pareil, mais sur des échelles qui sont un peu différentes, je pense.
Ok. Mais ouais, j'avais juste une question. Tu joues toujours avec le même groupe à Honshu? Je pense que ça peut jouer ça aussi.
Ouais, j'ai joué quelques parties. Je joue beaucoup au bureau en ce moment entre midi. Donc quand on est 4-5, Honshu, je le sors assez régulièrement. Donc j'ai joué 3-4 parties avec mes collègues de bureau. Et après, j'ai fait plusieurs parties un peu disparates avec des groupes d'amis.
D'accord.
J'ai pas senti le fait de jouer tout le temps avec. Enfin, j'ai pas fait non plus 15 parties avec le même groupe. Hein, mais j'ai
non,
pas.
Ça peut, enfin bref, ça bref pas, bon, parce que ça peut être un aspect sur les jeux de pli aussi. Souvent, c'est le fait de jouer avec les mêmes personnes ramène des subtilités dans le jeu, tu vois.
Tu sais un peu comment ils vont jouer, etc. Si après tu peux voir. En fait, c'est surtout vrai sur les tours 1 à 3 et 6 à 9, là où tu as 6 cartes en main. Là, la phase de pli, elle va vraiment être assez importante. Et des gens, par exemple, qui vont jouer des stratégies lac, ou tu vois qu'ils vont jouer des stratégies lac, tu sais qu'ils vont jouer des cartes fortes pour récupérer... ou en tout cas, ils vont jouer, pas forcément des cartes fortes, mais ils vont pouvoir jouer des cartes faibles, puisque c'est celle où il y a des lacs, avec des ressources en supplément pour avoir un plus 60, pour essayer de garder leurs propres cartes, en fait. Et sur les tours où tu... Alors, c'est là où, effectivement, les tours où tu récupères les cartes des autres, là, c'est un peu moins... T'as forcément moins de contrôle. Puisque
j'avais pas compris l'intérêt, en fait. J'ai vraiment pas compris l'intérêt de faire tourner les trois cartes. C'est peut-être pour, entre guillemets, pour lisser un peu le hasard de la distribution, je sais pas, mais enfin, j'ai vraiment pas trouvé ça pertinent en jouant, en fait.
Effectivement, s'il y a un petit bémol, c'est ça, l'intérêt est assez limité, mais en même temps, je le comprends parce que si tu as une main de cartes et que tu la joues entièrement, t'as le choix que dans l'ordre des cartes que tu vas jouer, ça pourrait se jouer comme ça. Hein. Après, le fait de passer aussi, tu peux te dire, je vais passer telle ou telle carte à un adversaire et je vais savoir ce qu'il a en main. Tu vois, donc je vais savoir ce qu'il peut jouer. Et donc chacun a une information partielle de son voisin. Mmh. T'as pas l'information de tout le monde, mais tu sais que tel joueur a telle carte en main. Et donc tu sais que quand il joue celle-là,
tu connais
les
valeurs et du coup t'as une chance de dire je vais réussir à me mettre au-dessus ou en dessous. Mais bon, encore après faut-il connaître l'ordre. Et si vraiment t'as laissé des cartes qui sont dans les mêmes valeurs, oui, du coup tu vas avoir une info. Mais si tu laisses trois cartes dans des valeurs différentes, ça va être bon. Ouais. Enfin, j'avais pas trouvé ça. En tout cas moi, des parties que j'ai fait, j'ai pas accroché. Maintenant c'est comme tout, hein. Il y a des jeux pour certains joueurs, des jeux pour d'autres. Hein.
Oui, tout à fait. Moi, je le trouve plutôt agréable. Effectivement, c'est moins immédiat, moins immédiat,
moins élégant quand même.
Peut-être moins élégant. Je dirais pas moins élégant, mais c'est moins direct. C'est moins direct. Peut-être un chouïa moins accessible que King Domino. Ça en reste pas moins un jeu qui est accessible. Enfin, c'est donné à partir de 10 ans, je crois. Non, même 8 ans. 8 ans et plus, parce qu'il n'y a pas forcément d'éléments de lecture. Donc même 8 ans, les gamins commencent à lire, mais c'est un jeu qui peut être familial, qui est effectivement un chouïa plus compliqué dans le choix de la tuile que King Domino, mais qui est pas si compliqué que ça au final, qui est assez simple, qui est assez varié, assez profond. J'ai fait plusieurs parties et les parties se ressemblent pas forcément. C'est-à-dire que c'est un jeu où t'as un peu d'opportunisme aussi. Forcément, ta stratégie va un peu s'adapter en fonction de ce qui tombe et en fonction de ce que tu peux atteindre. Le mécanique de la ressource qui peut à la fois servir pour faire des points à la fin ou qui peut servir pour augmenter la valeur de ta carte, pour avoir plus de contrôle en fait sur ce que tu vas prendre, moi je trouve ça assez intéressant. C'est la petite mécanique, on va dire, qui complique un petit peu et qui donne un peu de profondeur à tout ça.
Ça j'avais quand même trouvé ça globalement pas mal, parce que en plus ça t'as vraiment le dilemme de est-ce que je vais garder ma ressource pour pouvoir la placer en produit manufacturé à la fin,
donc ça
va mettre des points, ou est-ce que je la joue pour essayer de, bon, en général c'est quand même plutôt pour soit soit garder ta carte parce qu'elle est bien, soit vraiment il y a une carte qui vient de tomber et qui est intéressante. Oui. Tu joues pas trop tes ressources quand même à l'aveugle.
Non, tu les joues rarement à l'aveugle. Tu les joues rarement quand t'es en premier joueur, à part vraiment comme tu le dis, si tu veux garder ta carte. Et puis la manufacture, par exemple, si t'as en fait, si t'as une ressource grise, tu vois, et que t'as une manufacture qui tombe et qui vaut 4 pour la ressource grise, en fait, comme les manufactures sont des points variables qui vont de 2 à 4, et ben des fois, si dans ton truc t'as une manufacture qui vaut 2, tu vas plus facilement jouer la ressource pour récupérer une autre carte que si t'as une manufacture qui rapporte 4. Puisque généralement, les forêts ça vaut 2, les lacs ça vaut 3, donc si tu peux récupérer un lac ou une manufacture pour une autre ressource qui vaut beaucoup de points, tu vas y aller. Si c'est pour récupérer une forêt ou un village qui vaut 2 ou 1, bon bah là c'est moins évident que t'y ailles, quoi. Voilà, moi je trouve s'il y a deux petits bémols, c'est le premier, bah effectivement c'est la partie passage de cartes. C'est bon, honnêtement c'est pas non plus très lourd. Même si on voit pas trop d'intérêt, effectivement, il y a peut-être un intérêt de connaître la main.
C'est pas un problème de lourdeur, hein, c'est un problème. Est-ce que c'est vraiment intéressant?
Vous pouvez essayer de jouer avec, vous pouvez essayer de jouer sans, ça c'est pas trop un problème. L'autre petit bémol, bon, enfin, qui est pas trop dérangeant, c'est comme on peut placer les cartes au-dessus ou en dessous. Forcément, quand on veut placer une carte en dessous, des fois, qui est en dessous à cheval de deux cartes, il peut y avoir des petits trucs un peu chiants de manipulation de
cartes.
Ça
peut bouger, quoi.
Un peu comme on, je sais pas si on l'avait évoqué pour, je sais pas si
dans c'est Kanagawa.
Ici, voilà, dans Kanagawa. Mmh. Ou des fois pour passer la carte en dessous, c'est un petit peu embêtant, mais rien de bien méchant. Autre chose qu'il faut signaler, c'est que c'est un jeu que je trouve de qualité et qui est à très petit prix aussi, puisqu'il est à 13,50€ sur la boutique de notre partenaire Philibert. C'est quand même un jeu dans lequel il y a 60 cartes du coup tuiles, il y a 8 cartes des scores alternatifs, il y a 5 cartes d'ordre de jeu, il y a 5 aides de jeu et il y a 6 cartes province de départ. Donc on commence tous avec une carte déjà devant soi, plus 40 cubes de ressources, donc 10 de chacune des 4 couleurs. Une petite boîte qui s'emmène à peu près partout, la règle dans la nouvelle version du coup qui est plutôt bien écrite, et tout ça pour 13,50€. Je trouve que le prix est vraiment très contenu pour un jeu qui se joue, je l'ai pas dit, je crois ça se joue en une demi-heure à peu près, donc je trouve un très bon rapport prix et qualité ludique, quoi.
Ouais, il donne une demi-heure à une heure chez Philibert. Ouais. Je pense qu'effectivement, enfin ouais, moi mes parties elles avaient pas duré une demi-heure, hein, de mémoire. Mais bon, après, si tu veux jouer avec les mêmes personnes, ça va aller vite, mais...
Après, enfin...
J'avais joué beaucoup à 5, je crois, aussi.
Ouais, ou 4, peut-être qu'à 5, ça dure... Oui, à 5, ça dure un chouïa plus longtemps. Après, bon, tu peux bloquer un peu sur le choix de la carte, mais généralement, tu vois assez vite, en fonction de ta stratégie, tu vois assez vite la carte qui va t'intéresser le plus ou pas. Ou en fonction des ressources que t'as, tu vas voir assez vite. Voilà pour Unchu. Je refais la fiche signalétique rapidement. C'est un jeu de Cal Malmioja, illustré par Jer Kasanen et aussi Yekbala. C'est édité par Lotapelit et distribué par BlackRock. C'est pour 2 à 5 joueurs, pour des parties de 30 à 1 heure maximum, mais c'est le grand maximum, je pense, à partir de 8 ans. Et c'est à 13,50€ chez Philibert. C'est en réapro actuellement. Mais normalement, quand l'épisode sera diffusé, ce sera à nouveau dispo. Je crois que c'est à nouveau dispo à partir du 9 décembre. Voilà, donc ça devrait être disponible.
Les illustrateurs, c'est les mêmes que ceux de Flamant Rouge. Parce que les noms disaient quelque chose. Et...
Bah, okay. Ça doit être des illustrateurs maison de Lotapelit.
Ouais, il y a des chances, effectivement. Ok, très bien. Bah, écoute, merci pour la présentation.
Bah, merci à toi. Je vais t'écouter attentivement puisque... Ton jeu m'est inconnu au bataillon.
Ok, et ben allez, c'est parti, on va parler de Topiary. Donc Topiary, c'est un jeu que j'ai ramené d'Essonne. Donc c'est un jeu édité par Fever Games, c'est un éditeur italien. C'est un jeu de Danny Devine. Alors, ça doit pas se prononcer comme ça, mais bon, voilà, je vais dire Danny Devine. Il est illustré par Danny Devine lui-même et par Jeff Oglesby. Alors, me demandez pas qui a fait quoi dans le jeu, je ne sais pas. Donc c'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu de... Alors là aussi on va peut-être parler un petit peu de King Domino, même si le type de jeu est pas du tout le même, mais il m'a fait penser à King Domino sous certains aspects. C'est un jeu basé sur un principe de ligne de vue. Donc il est constitué de 40 tuiles qui sont en fait des tuiles qui sont numérotées de 1 à 5 dans 8 familles différentes. Donc en fait ce sont des petits buissons qui sont taillés avec des formes différentes. Donc il y a un dinosaure, il y a des pyramides, il y a des cygnes, voilà, ce genre de trucs. Donc 8 formes différentes numérotées à chaque fois de 1 à 5. Et le principe en fait ça va être d'essayer de... On va construire un jardin de 5 par 5. Donc ça fait 5 par 5, ça fait 25 tuiles. J'y ai arrivé. J'ai mon petit calcul.
C'est des tuiles uniques du coup. C'est des tuiles à une monocase. Ouais.
Oui, c'est ça, ouais. Exactement. Chaque tuile est unique. Et le principe, c'est d'essayer de voir le plus possible de ces buissons dans le jardin. Donc le jardin, au début, il est constitué de 5 par 5. On ne retourne que la tuile qui est au milieu. Et chaque joueur se retrouve avec 3 tuiles en main. On a des petits meeples qu'on va placer autour du jardin. Et donc notre tour de jeu, c'est hyper simple. On va prendre un de nos meeples, on va le placer quelque part autour du jardin, de façon à ce qu'il regarde une rangée. Alors ça peut être une rangée, une ligne, une colonne, mais ça peut aussi être une diagonale. Sachant qu'on peut même regarder les petites diagonales. Donc on peut regarder vous imaginez le carré de 5 par 5 quoi, et tu peux regarder une diagonale donc de même d'une seule tuile potentiellement, même si ça n'a pas trop d'intérêt dans le jeu. Ça peut être une diagonale de deux cases, de 3 cases, de 4, de 5. Voilà. La première subtilité, c'est que je ne peux pas me mettre dans la même ligne de vue en fait qu'un autre joueur. En fait, c'est très con, hein, c'est très simple. Hein, si je me mets dans la même vue qu'un autre joueur, je vais arriver derrière, je suis derrière lui, donc je ne vois rien.
C'est commun en fait, le carré de 5 par 5. C'est pas chacun son carré. Ouais.
Oui, okay. Pardon, mais non, c'est un carré commun de 5 par 5. Et donc quand je vais me placer dans une ligne, admettons, donc je choisis une ligne, j'ai le droit, là je suis pas obligé, de prendre une des tuiles qui est face cachée dans cette ligne, de la mettre dans ma main. Donc à ce moment-là, je vais avoir 4 tuiles en main, donc les 3 tuiles que j'avais déjà et celles que je viens de récupérer. Et à ce moment-là, je suis obligé de replacer une tuile face visible dans le jardin. Et le principe, c'est donc on va tous jouer comme ça à tour de rôle. Donc les joueurs jouent chacun leur tour jusqu'à utiliser tous nos petits meeples, sachant qu'on en a histoire de réguler la partie pour qu'il y ait toujours à peu près le même nombre, parce que quel que soit le nombre de joueurs, on va jouer avec le même jardin, le même carré de 5 par 5. Quand on joue à 2 joueurs, on a 8 meeples, si je dis pas de bêtises, et quand on joue à 4, on en a 5 chacun. Donc une fois que, admettons, on est 4 joueurs, que tout le monde a placé ses 5 meeples autour du jardin, on va regarder les points que chaque meeple fait. On va donc additionner pour faire le total des points du joueur. Et on va marquer de la façon suivante. En fait, on va marquer le nombre de points qui est indiqué sur la tuile, donc qui représente la taille de l'arbre, hein, de l'arbuste. La tuile 1 va marquer un point, jusqu'à la tuile 5 qui marque 5 points. Et si j'ai un arbre qui est plus grand que les arbres qui sont derrière les autres dans ma ligne de vue, tous ceux qui sont derrière sont masqués par l'arbre au plus grand, donc je ne les vois pas.
Non. D'accord.
Là, ça va.
Ouais.
Si j'ai dans ma ligne, j'ai 1, 3, 5, 2, 3 par exemple, je vais voir mon 1, 3 et 5, et je vais pas voir les arbres qui sont derrière.
Et 2 et 3, ouais, parce que le 5 les masque.
Exactement. Et pareil, un arbre de taille 3 va masquer un arbre de taille 3 qui serait derrière aussi.
D'accord.
Voilà, donc c'est hyper simple, c'est vraiment très direct comme jeu. Moi ça me fait penser à King Domino parce que voilà, l'aspect très direct, très simple du jeu, le format, tout la durée de partie,
le carré de 5 par 5.
Le carré de 5 par 5, même si celui-là pour le coup est commun. Et que là on n'a pas des dominos, on a des tuiles simplement carrées. Voilà, il y a vraiment, c'est pas dans la sensation de jeu, c'est vraiment dans le type de jeu, quoi, dans le type de jeu, dans le public auquel ça s'adresse en fait. Ça me vraiment, vraiment, ça me fait penser à Kingdom No. Après, j'ai pas expliqué quelques subtilités, mais bon, il y a des bonus si dans notre ligne on voit des arbres qui ont la même forme. Donc, dans ce cas-là, chaque arbre on va marquer un point de plus.
D'accord.
Et puis les tuiles qu'on garde en fin de partie. Donc il va nous rester 3 tuiles à la fin. On peut marquer les points qui sont indiqués dessus si on voit dans le jardin un arbre de taille plus grande que ceux qui sont donc dans notre main.
D'accord, donc tu peux garder les petites tuiles en fait pour les scorer quoi.
C'est ça. Du coup, forcément les 5 vont pas marquer puisque tu peux pas avoir d'arbre plus grand que le 5. Mais tu as l'air de rien, tu peux marquer comme des gros points à la fin puisque tu peux potentiellement tu peux marquer jusqu'à 12 points.
Il faut que tu vois un arbre plus grand de la même catégorie ou de n'importe quelle catégorie. De la même catégorie du coup.
C'est ça, le même type.
Le même type, ouais.
La même forme, quoi. D'arbre. Ok. Qui est sympa dans ce jeu, c'est le compte. Enfin, t'as vraiment beaucoup de contrôle dans le jeu. Tu vois tout ce qui se passe. Tu peux tout à fait bloquer les autres. Ça, c'est un jeu avec beaucoup d'interactions. C'est-à-dire que tu peux tout à fait aller te placer dans une colonne qui va intersecter donc forcément une ligne d'un autre joueur et lui péter sa ligne de vue. Ça arrive très régulièrement. Et là, bon, en général, tu vas tenter de cibler plutôt le joueur en tête, quoi. Ce qui est pas trop gênant, c'est que finalement, pour lui péter sa ligne de vue, forcément, t'es obligé de lui mettre un arbre assez gros devant lui, donc il va quand même marquer quelques points. Mais tu peux faire très mal, quoi. Si t'arrives à intersecter comme ça une ligne où le joueur avait réussi à mettre des bonus d'arbres de même forme, etc.
Tu peux rebouger tes meeples après ou ils sont vraiment
Non, ils restent en place. Tu peux plus du tout les bouger.
Donc, okay, donc c'est vraiment en posant les tuiles que tu peux faire chier les autres, quoi.
Exactement. C'est vraiment en reposant les tuiles. Tu vas essayer, alors ce qui est marrant, c'est que du coup, tu t'essayes d'améliorer aussi tes lignes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à faire des coups doubles, voire parfois triples. Du coup, te placer dans une colonne qui intersecte ta propre ligne pour aller mettre une tuile qui va marquer dans les deux, dans les deux sens, en fait. Oui. Tout le but, en fait, c'est de réussir à aller marquer autant que possible
aux deux endroits
comme ça, ouais, c'est ça, à deux endroits voire à trois endroits pour vraiment réussir à optimiser tes coups.
Tu places combien de meeples, tu m'as dit?
Selon le nombre de joueurs, donc quand t'es à 2 t'en places 8 et quand t'es à 4 t'en places 5.
D'accord, donc en fait pratiquement tout le bord du jardin est pris, quoi. Enfin, tout le bord du jardin est pris. Il y a des meeples placés partout en fait.
Alors t'en as placé partout, mais en fait comme tu peux te mettre dans les lignes,
ah oui, en diagonale,
les colonnes
alors,
et les diagonales, ouais. Ouais, du coup ça laisse comme quelques places. Mais
tu peux être à plusieurs sur une même, enfin au droit d'une même case, mais qui regardent pas dans la même direction.
C'est ça, exactement.
Okay.
Ouais, c'est ça. Tu peux être jusqu'à 3 meeples en fait autour de la même première case. Alors tu vois, voilà, j'en ai une dizaine de parties, je crois, à mon actif. Je commence à voir un peu les différentes subtilités de jeu, tu vois, où tu peux avoir des coups un peu opportunistes où tu vas jouer entre guillemets loin de ton meeple. Où là, du coup, tu vas tenter de mettre des grosses tuiles et tenter ensuite de compléter
après, ouais,
avec des plus petites devant, tu vois. Ou alors, t'as des parties un peu plus défensives où tu vas essayer de jouer près de tes meeples. Et du coup, tu vas avoir comme ça des zones qui vont être très très peuplées. On a fait une partie à deux il y a pas très longtemps pour essayer d'empêcher l'autre en fait de te bloquer, de péter tes coups. Tu joues près de tes meeples, tu joues des petites valeurs. Et là, tu te retrouves du coup avec des configurations qui naturellement vont peupler un côté du carré,
ouais,
ou un coin. Tu vois, ça va se peupler beaucoup parce que ça va se peupler autour des premières tuiles qui sont mises. Et ensuite, seulement, ça va se dispatcher un peu pour venir réintersecter, etc. Et t'as vraiment des stratégies sympas. Voilà, c'est un jeu vraiment super direct. Moi, j'ai vraiment trouvé ça super élégant. Je sais pas si t'as des questions.
Bah moi j'avais pas du tout vu passer ce jeu, donc t'as attisé ma curiosité. J'ai hâte de l'essayer. J'ai pas particulièrement de questions. Je vois à peu près à quoi ça peut ressembler. Tu m'as dit le scoring, t'as vraiment que tu scores ce que t'as dans ta ligne de vue. Les bonus, si t'as la même catégorie, enfin la même sorte de buissons dans ta ligne de vue,
c'est ça.
plus les trois qui te restent à la fin, Les 4 qui te restent, 3 tuiles qui te restent à la fin. Si t'as des tuiles dans la même catégorie qui sont plus fortes dans ta ligne de vue, tu vas scorer ces tuiles là.
C'est ça, exactement.
Okay. Y a rien d'autre en fait.
Y a rien de
donc
plus.
C'est assez,
non.
Ouais, non, c'est.
Tu scores qu'à la fin. Du coup, t'as. Alors, il y a dans le jeu, t'as les 40 tuiles. T'as les meeples donc de 4 couleurs, donc ça fait 4 fois 8, 32. Tu as un plateau de score avec des petits pions, enfin des jetons carton pour marquer les scores. Donc qui sert qu'à la fin, mais qui est quand même plutôt pratique parce qu'effectivement quand tu joues à 2, que t'en as 8 à faire l'un derrière l'autre, tu vois, c'est quand même pratique d'avoir le plateau de score.
Et quand tu, en fait, j'ai pas très bien compris, quand tu poses une tuile, tu la mets, elle doit forcément être adjacente à une tuile déjà posée du coup.
Non, tu dois la poser dans la ligne dans laquelle tu t'es placé. Dans ta ligne de vue, en fait.
D'accord.
C'est-à-dire que tu viens de poser un meeple, et dans ta ligne de vue, tu prends une tuile qui est face cachée,
et tu
l'ajoutes à ta main, et ensuite tu reposes une tuile de ta main.
Ok, à la manière de Quadropolis, quand tu poses l'architecte, tu choisis dans la ligne. Enfin là, c'est le contraire, au lieu de prendre une tuile, tu vas en poser une, quoi.
Oui, je me rappelle plus. Non,
tu te rappelles plus de Quadropolis. Dans Quadropolis, t'as les bâtiments, t'as le je crois que c'est un 5x5 ou un 4, ouais, un 5x5. De bâtiment, et pour récupérer un bâtiment, en fait, tu vas mettre un architecte dans une ligne,
ouais,
et l'architecte a une valeur, tu prends
la valeur, tuile. C'est ça, tu prends dans la ligne,
en fait, là, c'est le contraire,
le numéro de la tuile.
Là, c'est le contraire de Quadropolis, quoi. Tu poses ton meeple et tu vas poser une tuile dans cet axe.
Écoute, j'arrive pas à revoir Quadropolis, mais en fait, je vois pas où est le contraire pour le coup.
Bah, dans Quadropolis, c'est le même principe, sauf que tu prends une tuile au lieu de la placer, quoi.
Ah oui, mais enfin, tu prends aussi la tuile qui est déjà dans le jardin, c'est pour ça que je voyais pas dans quoi c'était le contraire.
Tu prends
la tuile qui est dans le jardin,
ouais.
Pour commencer, qui est face cachée. Tu l'ajoutes à ta main et ensuite t'en reposes une, effectivement. Tu dois en reposer.
Ah ok,
une
d'accord. Ensuite. Ah oui, c'est ça que j'avais pas compris. C'est que toutes les tuiles au départ sont placées sur le jardin et tu vas en enlever une pour en mettre une. D'accord.
T'as un côté pioche. En fait, si tu veux, tu pioches dans le jardin pour
d'accord,
reposer
okay.
ta main. Et ensuite, bon, en général, t'évites de tenter les bonnes pioches parce que quand même, c'est pas gagné. En tout cas, statistiquement, tu comptes pas trop là-dessus, quoi.
C'est rare la fois où tu remets la tuile que tu viens de piocher au même endroit, quoi.
Ouais. Bah, la bonne pioche, je l'ai pas eu souvent, donc on l'attend pas souvent, en fait, quoi.
Ouais.
En général, t'as quand même tes 3 tuiles en main, tu vois, c'est un peu comme
De toute façon, quand tu pioches, tu la prends en main et tu peux choisir si tu la remets ou pas. T'es pas obligé de dire
exactement.
Ouais, donc
bien sûr. Donc si parce que je veux dire, quand je dis tu tentes pas trop la bonne pioche, c'est si
tu comptes pas trop dessus, quoi.
Ouais, tu comptes pas trop dessus pour essayer de faire un super coup si t'as pas déjà ce qu'il faut dans la main.
Dans la main, oui. Ouais. Oui, tu bases quand même l'endroit où tu vas piocher par rapport à ce que tu as dans la main.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ?
Donc c'est pas dispo en français encore. Enfin, même si je pense que les règles sont pas très compliquées, qu'il ne doit pas y avoir de texte sur le matos, mais...
Ouais, c'est ça. Alors le jeu, il est en italien et en anglais.
D'accord.
Donc effectivement, je crois que les règles, elles font 2 ou 3 pages. Illustrées en plus, donc c'est vraiment hyper simple. C'est Fever Games. Alors, je sais que j'ai essayé de les contacter pour savoir s'ils avaient un éditeur français qui était sur le coup. J'ai pas eu de réponse, mais je sais de source plutôt sûre que il y a des éditeurs français sur le coup et que donc Fever Games est censé fournir une réponse prochainement parce que voilà. Donc a priori il y aura une version française. Je sais aussi que Philibert qui vendait le jeu, sûrement qu'ils ont récupéré sur Essonne, a une commande en cours. Ils n'ont pas encore la disponibilité en vue, mais il y a une commande qui est en cours chez eux.
D'accord.
Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller placer une alerte sur leur site et puis surveiller ça. C'est 19,90€ chez Philibert. Ce que j'ai pas raconté non plus, à la base c'était un jeu qui était en print and play Parce qu'en fait, là aussi le nom me disait quelque chose, mais vraiment de loin. Danny Devin, je sais pas. Alors je me suis dit, est-ce que c'est juste parce que le nom est un peu francophone. Et je suis allé rechercher. En fait, c'est l'auteur de Mob Town, qui était un jeu en print and play. Je sais pas si Guilard n'avait pas parlé. En tout cas, je sais qu'il a offert à ma femme une version de Mob Town en print and play. Donc je sais plus s'il en avait parlé déjà chez nous ou pas. Qui est un jeu qui a été édité ensuite, je crois, chez Trèfle Games, je sais plus le nom de l'éditeur exactement, qui est aussi l'auteur de Harvest Dice, qui est un jeu qui a fait son petit buzz à Essen cette année, un jeu à la un peu style Yams, quoi, qu'on appelle les Roll and Write, ouais. les jeux avec carnet de papier, tu sais, voilà, et les dés.
Ah ouais, je vois bien.
Voilà, donc oui, une version française a priori à venir, mais on ne connaît pas encore l'éditeur. Je sais qu'il y a Renegade qui a pris la version anglaise, donc sûrement distribution américaine, ou voilà, bon, j'ai pas regardé plus loin, mais et je sais que Renegade va faire aussi ses versions françaises, donc peut-être qu'ils sont sur le coup. Donc à suivre. Si j'ai l'info avant la fin de avant le montage, je la rajouterai, mais mais c'est pas gagné.
Okay.
Donc Topiary, donc un jeu à partir de 10 ans. Il est donné à partir de 10 ans. Je pense qu'on peut jouer un peu plus petit. Après, c'est vrai que la difficulté, c'est peut-être ces histoires de lignes de vue et de. Il faut réussir à s'imaginer de la hauteur qui n'est pas du coup représentée sur le plateau. Hein, forcément, il n'y a pas la hauteur, il y a que les valeurs hein, sur l'étude évidemment et des hauteurs de les illustrations ont des hauteurs différentes. Mais je pense qu'on réussir à s'imaginer peut-être que derrière en fait derrière une certaine hauteur on voit pas alors que c'est pas représenté sur le plateau. Peut-être que c'est peut-être ça qui est un peu difficile. Je m'explique assez mal les 10 ans.
Tu pourrais un peu pimper le truc en récupérant des tuiles quelconques ou des bouts de carton de même taille. Que tu viendrais placer en dessous le nombre égal au nombre de à la valeur de la tuile en fait, ça rendrait un petit effet 3D au jeu qui pourrait aider à visualiser en fait.
Ouais, après ça ferait pas mal de manip mais pourquoi pas. Hein.
Ouais, enfin tu prépares tes petits tas de 2 3 ouais, 4 ouais. Enfin 1 2 3 4 5 ben non 4 1 2 3 4 bouts de carton que tu mets en dessous. Enfin, je sais pas, ça peut à tester.
Pourquoi pas. Quitte à pimper, autant peut-être faire les 40 buissons.
Que tu viens poser sur la tuile
3D. Que tu viens poser après. Alors ça, d'ailleurs, je trouve que c'était, enfin, j'avais trouvé que c'était pas forcément supra lisible. En fait, je trouve que c'était peut-être un peu dommage de pas avoir soit des couleurs différentes, soit un petit rappel peut-être au niveau du
par rapport aux formes, aux différentes formes.
Ouais, par rapport aux formes, ouais, parce que bon, globalement, tu les formes
tu
sont quand même suffisamment différentes, mais je sais pas, il y avait un petit aspect quand même où comme tu les as pas toutes dans le même sens en plus, parce que les joueurs ils vont avoir tendance à les remettre un peu face à eux, tu vois. Du coup, c'est pas forcément évident au premier coup d'œil. Quoi.
Ouais, il y a aucun code couleur, c'est tout vert, quoi.
C'est ça, il n'y a pas de code couleur, c'est tout vert. Les illustrations elles sont plutôt sympas. Bon, il y a des arbres qui sont des arbustes qui sont plus réalistes on va dire que d'autres. voilà, c'est plutôt mignon, c'est bucolique. Après ça ne donne pas non plus un rendu jardin sensationnel. C'est pas je renverrai vers le billet pour que vous puissiez regarder vraiment un peu à quoi ça ressemble, mais c'est pas une vue de dessus, donc du coup ça construit pas un paysage, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, j'ai les illustrations sous les yeux là, je suis allé voir sur Philibert du coup.
Voilà, bah tu as les arbres posés sur un sol avec le ciel derrière, donc forcément
c'est vu de profil en fait.
Ouais, c'est ça.
Et en fait tu as quatre catégories qui représentent des animaux et puis quatre catégories qui sont plutôt des formes géométriques du coup.
Alors j'avoue que j'ai pas tenu le compte, mais c'est peut-être bien ça.
Bah là il y a les 8 catégories sous les yeux. Donc t'as un dinosaure, une baleine, un cygne et un éléphant pour les animaux.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et après t'as un arbre plutôt en triangle, un plutôt en hexagone, un en spirale et puis un avec deux ronds.
Deux boules,
ouais. Ouais, deux boules, c'est ça.
Ouais, exactement. Donc la petite fiche signalétique, donc à partir de 10 ans, des parties de moins de 30 minutes, effectivement. Alors c'est quand même c'est quand même pas super court, parce que tu vas réfléchir plus. Enfin, toi, si je retourne vers ma comparaison avec King Domino, c'est pas aussi court que King Domino parce que tu vas réfléchir un peu plus. Il faut que tu arrives à te projeter, tu vois, à dire, à voir les lignes, les colonnes. Au final, il y a quand même beaucoup de lignes, beaucoup de colonnes. Enfin, non, pas beaucoup de lignes, beaucoup de colonnes, mais beaucoup d'alignements possibles, quoi. Ligne, colonne, plus diagonale.
Ouais.
Faut que tu regardes tout le temps quel est le meilleur coup. Donc t'es quand même obligé de réanalyser le plateau quasiment chaque fois au début de ton tour. C'est la plupart du temps, tu vas quand même, il y a quand même pas mal de coups opportunistes dans la partie. Enfin, opportunistes. Il y a des coups qui vont potentiellement marquer plus que d'autres, surtout sur la fin de la partie. Au tour au début, tu construis ton truc, donc tu vas facilement te mettre dans une ligne, intersecter, te replacer dans la colonne ou la diagonale. Tu vois, tu vas maîtriser un peu ton jeu. À la fin de la partie, tu subis peut-être un petit peu plus, et là, tu vas tenter plus des coups opportunistes à essayer de te placer dans là où ça fait déjà beaucoup de points, tu vois.
Ouais.
Et du coup, là, t'es obligé d'un peu réanalyser le plateau au début de chaque tour, parce que souvent, le coup que t'as vu qui fait beaucoup de points, bah, il a été pris par le joueur précédent.
Oui, et forcément, voilà. Tu peux pas te dire je vais placer un endroit et je vais construire puisque il y a plus beaucoup de tuiles à poser, quoi. Donc t'es obligé de.
C'est ça. T'as moins de choix.
Ça s'inverse.
Plus t'avances, c'est moins t'as de choix.
Ouais, ça s'inverse un peu dans le choix et dans la construction, quoi. Au départ, tu te places pour pouvoir poser des tuiles en face de toi, et à la fin, tu te places là où il y a des tuiles posées qui sont intéressantes.
Voilà. Et éventuellement, que tu peux quand même compléter avec celle que tu as en main, quoi. Mm. Donc, moins de 30 minutes quand même, hein. Ça reste quand même court. Quand on joue à deux, c'est plutôt de 15 minutes, hein.
D'accord.
Voilà. Donc, 2 à 4 joueurs, et dispo pour l'instant que en anglais ou en italien, si des fois vous parliez italien.
Mais en rupture pour le moment sur Philibert, du coup.
C'est ça, en rupture chez Philibert, 19,90€.
Parfait.
Et donc, c'était un jeu chez Fever Game et de Danny Devine.
Très bien.
Voilà. Bah, c'est ce qui va conclure notre émission, je pense.
Ouais.
À moins que t'aies des choses à ajouter. Ouais.
Non, pas particulièrement. Je suis bientôt en vacances.
Eh ben, c'est cool. Bah, écoute, on va te souhaiter de bonnes vacances.
On se revoit l'année prochaine.
Tu pars en vacances avant tout le monde.
Ouais, j'aime bien.
Ouais, on va se retrouver l'année prochaine. Bah, écoute, ramène-nous quelque chose, peut-être des États-Unis, qui sait.
Bah, ouais, je vais voir si je trouve des petites pépites ludiques.
Ou alors pars avec quelque chose de bien que tu vas pouvoir nous chroniquer en rentrant.
Ouais, je vais voir ce que j'emmène dans mes valises.
Ouais, alors à mon avis, ce sera peut-être pas le 7e continent.
Non, voilà, faut que ce soit pas très très volumineux.
Faudrait que ça reste compact.
C'est ça.
T'aurais peut-être dû garder Wunshu pour janvier.
Bah ouais, ça m'empêchera pas de l'emmener avec.
Ok, très bien. Bon bah alors, salut BenoFX.
Salut.
Salut à tous. Et puis on vous dit.
Bah du coup à l'année prochaine, et en attendant,
jouez bien. Demandez pas qui a fait quoi dans le jeu, je ne sais pas.
Et qui a fait quoi dans le jeu?
Ouais, c'est rare, ouais, quand même. Hein.
Doudou.
Doudou, mais je sais pas où j'ai ton doudou. Il doit être en haut. Hein.
Tu fais quoi?
Je vais enregistrer un podcast.
Pourquoi?
Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Parce que ça me plaît. Voilà pourquoi.
Non.
Bah si, ça me plaît.
Bah du coup, je sais plus où on en était.